Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir dans les salons de la librairie Mola Thierry Pêche. Pêche. Hein. Thierry Pêche, qui est directeur de la rédaction d'Alternatives économiques, qui est un mensuel bien connu, j'allais dire en particulier connu des étudiants, mais également de toutes les personnes qui s'intéressent à l'économie. Et vous savez, selon la formule consacrée, qui est généralement appropriée et donnée à la politique, si vous vous intéressez pas à l'économie, de toute façon, l'économie s'intéresse à vous. Et donc, il est particulièrement important et nécessaire de suivre ces questions, en tous les cas d'essayer de les comprendre. Dans son livre, Thierry Pêche, à la fin de son livre, a une petite page de remerciement. Il remercie Philippe Frémaux, qui est, je pense qu'on peut dire, peut-être le fondateur d'Alternative Éco.
Non, c'est Denis Clerc, le fondateur. C'est le successeur de Denis Clerc
à la tête d'Alternative Éco. Également Martine Saada, qui est également remerciée, et d'autres proches de Thierry Pêche. Et je vous le recommande aussi dans ses remerciements. Thierry Pêche cite un des derniers livres, une dernière contribution de Philippe Frémaux, intitulé Petit dictionnaire des mots de la crise. Fort utile, en effet, comme ouvrage. Alors, le livre de Thierry Pêche, ça se lit, on pourrait presque dire, comme un roman. À cette précision près que c'est un roman qui parle de nous, c'est-à-dire de la société française, vue non pas à travers les plus riches, ça serait peut-être plutôt les travaux qui ont été ceux de Michel Pinceau et de Madame Pinson-Charlot, son épouse, de Monique Pinson-Charlot, mais c'est notre société, c'est la société française, dans ce qu'elle peut révéler, à la fois de formidables différenciations, au pluriel, qui sont à la fois des différenciations financières, mais également sociales, mais également éthiques, voire philosophiques. Et c'est aussi une manière de faire le tour de ce qu'on pourrait appeler de plus en plus la tête d'épingle. Alors, en quoi ça consiste ? Ça consiste à essayer de saisir, de cerner, d'appréhender ce qui constitue la pointe la plus acérée et de plus en plus acérée de l'échelle des revenus, de l'échelle des mobilités financières et des disponibilités financières dans une société comme la nôtre. Dans son livre, Thierry Pêche a un sous-titre intitulé, ainsi libellé, « Anatomie d'une sécession ». Et dans votre ouvrage, page 130, vous évoquez, Monsieur Pêche, ce que vous appelez dans votre troisième partie, « Comment la société a autorisé la sécession des riches ». Vous dites que différentes études et enquêtes d'opinion montrent que l'argent fait partie des valeurs montantes des Français. Vous évoquez d'ailleurs celui qu'on a désigné communément comme le président des riches, hein. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage de Michel Pinson et de Monique Pinson-Charlot. Je rappelle que tous les deux sont chercheurs émérites au CNRS et ont travaillé sur sur les réseaux qui sont ceux du président Sarkozy, résumés dans cette figure emblématique et finalement beaucoup trop facile du président du Fouquet. Mais vous dites que le président n'est pas seulement le président d'une petite oligarchie, mais celui que les Français ont majoritairement élu, et on va dire plutôt bien élu. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Pêche, c'est finalement pourquoi la société a-t-elle autorisé cette sécession des riches et en précisant peut-être que, est-ce que ça se voudrait dire, hein, que les Français sont d'autant plus enclins, ont été d'autant plus enclins à accepter cette sécession des riches, cette coupure des riches par rapport au reste de la société, qu'ils rêvent tout simplement eux-mêmes, non pas de faire partie de la guerre de sécession, mais j'allais dire d'être du côté des sécessionnistes.
Bonsoir à tous, merci de votre accueil. Le passage que vous avez cité est un passage où j'essaye d'interpréter autrement le phénomène de sécession de la fortune que ne le font Michel et Monique Pinson-Charlot. Enfin, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. C'est un passage où j'essaie d'expliquer qu'il y a deux récits sociologiques possibles du même phénomène. Alors, il faudrait s'arrêter sur le phénomène, je vais le faire à l'instant, comme ça on se mettra d'accord sur ce qu'on dit. Mais ensuite, son interprétation peut donner lieu à deux lectures. Une lecture, alors les intéressés réfuteraient peut-être le terme, mais à mes yeux, néo-marxiste du phénomène, qui est celle de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, où en gros ils disent qu'il y a une guerre des classes qui a été gagnée par la classe supérieure parce qu'elle est beaucoup mieux organisée que celles qui sont en dessous d'elle. Bon. C'est-à-dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Jusque-là, on ne peut pas être complètement en désaccord. Mais c'est un peu ce que j'appellerais une espèce de théorie du hold-up. Il y a des gens bien organisés en haut de la société qui ont fait un casse formidable dans les coffres-forts de la société française, qui ont pris le magot et qui se sont carapatés. Bon. Je caricature un peu, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'il faut... Hein, faut se comprendre. Moi, je raconte une autre histoire. Je dis, effectivement, il y a bien eu une cassure de l'échelle des revenus absolument fantastique en haut de la distribution. Pour donner un ordre d'idée, et là, je ne parle que des salaires, et les salaires tout en haut de la distribution des revenus, ce n'est pas l'essentiel. Hein, bon. Mais les 15 000 salariés français les mieux payés gagnaient entre 20 et 25 fois le salaire moyen français en 1995, et donc 12 ans plus tard, en 2007, au moment où la France, les Français élisent Nicolas Sarkozy, ils gagnent 60 fois plus. Bon. Donc non seulement la cassure est nette quantitativement, mais elle se produit dans un espace de temps très court. Il y a vraiment une décennie de la sécession. Bon. Alors, évidemment, c'est préparé très en amont et ça va continuer très au-delà. Mais c'est là que ça se passe. Bon. Donc cette histoire, les Pinson-Charlot disent, la classe supérieure a gagné la guerre des classes. Bon. Alors, moi, je dis, dans ce que disent Michel et Monique Pinson-Charlot, des choses qui sont indiscutables, et notamment le caractère très organisé des milieux d'argent. Bon, ça, de toute façon, c'est tellement peu de monde que c'est pas difficile de s'organiser. Le 0,01%, vous voyez, dont on parle tout le temps, le millime, hein, comme disent les statisticiens, tout en haut de la distribution, c'est 5800 personnes. Bon, alors que les classes du dessous, c'est des millions de personnes. C'est plus facile de s'organiser à 5800.
Pour situer, pardon, hein, ces 5800 personnes, c'est 82 000 euros par mois, imposables.
Oui, alors...
C'est ce que vous dites, page 26.
Je sais que tout le monde adore que je ressorte ces chiffres, donc je vais les ressortir, comme ça, vous allez pouvoir avoir le vertige avec moi. Mais faites attention aux chiffres, la réalité est souvent pire. Plus compliquée, mais souvent pire. Alors, effectivement, pour entrer... L'échelle des revenus, c'est une échelle dont les barreaux ne sont pas réguliers. Hein. Plus vous montez sur cette échelle, plus ils sont espacés. Il y a un moment, il faut sauter pour passer d'un niveau à l'autre. Bon. Imaginez-vous donc cette échelle un peu déformée qui va avoir des écarts de plus en plus grands tout en haut. Et vous arrivez au dernier décil. Donc vous arrivez dans le 10% des Français les plus riches. Bon. Pour entrer dans ce monde-là, il faut franchir un seuil de 3 000 euros, en gros, mensuel. Hein, c'est du revenu fiscal déclaré. Donc, ce n'est pas tout à fait la totalité des revenus. Bon. Donc, 3 000 euros. Ce n'est pas tant que ça. Hein ? Vous faites partie des 10%, je suis sûr qu'il y en a ici, des 10% des Français les plus riches. Moi, par exemple, j'y suis. Hein. Donc, vous pouvez faire votre coming out. Mais vous ne passez pas vos vacances à bord d'un yacht. avec ça, vous ne roulez pas en Jaguar et vous ne vivez pas dans un palace.
Ou plus exactement, si vous passez vos vacances dans un yacht, si vous vivez dans un palace et que vous déclarez aux impôts à peu près 3000 euros par mois, c'est que, comme on dit, vous fraudez sérieusement.
Effectivement. Pour entrer dans le 1% des plus riches, donc 9 degrés au-dessus, si vous voulez, il faut gagner un peu plus de 10 000 euros par mois. Mais à l'intérieur de ce 1%, il y a plus d'écart que dans les 99 qui précèdent. C'est-à-dire que pour entrer dans le 0,01%, donc dans le millime, tout en haut, il faut gagner, dit l'INSEE, plus de 82 000 euros par mois. Mais l'INSEE compte très mal les revenus financiers, puis l'INSEE, pas plus que les impôts, ne peuvent compter les différentes formes d'évasion, d'optimisation, etc. Donc on peut faire un paquet à 100 000 euros sans risquer de se tromper beaucoup. Donc voilà de quelle masse on parle. Mais là, encore une fois, ça, c'est le seuil d'entrée. Donc ça, c'est le 5800e du 0,01%. Dans les 10 premiers, là, c'est la fête. Donc, il y a ce phénomène, il s'est accru, c'est ça la sécession au sens économique et économétrique du terme. Les Pinsons racontent cette histoire donc, de guerre des classes, et moi je dis un peu autre chose, je dis que ça ne s'est pas produit sans un consentement tacite, collectif, ou une tolérance croissante à l'enrichissement dans les années 80, 90 et 2000. Bon. Alors je rappelle un certain nombre de choses. D'abord qu'on a élu des majorités présidentielles et législatives qui, depuis 10 ans, ont toutes mené à bien, et pas clandestinement, qu'ils l'avaient annoncé dans leur programme, ont toutes mené à bien des baisses d'impôts. Bon, et des baisses d'impôts qui ont favorisé les hauts revenus ou les très hauts revenus. Depuis l'an 2000, l'accumulation du manque à gagner fiscal lié à ces baisses d'impôts représente 400 milliards d'euros, soit 20% du PIB. Je parle de mémoire, tout ça est dans le rapport Chansor-Cottis. C'est pas un rapport de gauchiste. Ce sont des chiffres officiels, publics. C'est 20% du PIB français. La dette publique dont vous entendez beaucoup parler aujourd'hui, c'est même 1 700 milliards d'euros. Donc 400 milliards, c'est pas une petite somme quand même. On peut faire des choses avec 400 milliards. On aimerait les avoir. On aimerait ne pas les avoir abandonnés d'une certaine manière aujourd'hui. C'est comme la gymnastique, l'impôt. Vous savez, vous gagnez de la souplesse très lentement, mais si vous arrêtez, vous la perdez très vite. Donc si vous voulez regagner la souplesse du consentement fiscal dans les 6 mois qui viennent, ça fait 10 ans que vous n'avez pas fait de gymnastique, vous voyez l'effort qu'il faut faire. Bon. Donc je crois qu'il y a eu un consentement, ne serait-ce que sur cette question fiscale. Les Français ont voté en conscience pour des gens qui ont annoncé qu'ils baisseraient les impôts. Souvenez-vous, Chirac en 2002, élu dans des conditions certes un peu particulières, mais Chirac en 2002 dit « je vais baisser l'impôt sur le revenu de 30% ». Et il le baisse de 20% tout de même. C'est pas rien. Je ne reviens pas sur Nicolas Sarkozy, mais il arrive devant les Français en 2007 en disant clairement ce qu'il va faire sur l'impôt sur les successions, sur un certain nombre de choses. Donc il n'y a pas de surprise et on élit ces gens-là. C'est pour ça que je dis, ce passage que vous avez lu, il n'est pas seulement le président des riches, il est aussi le président de tous les autres qui ont voté quand même dans des proportions qui font qu'il a eu plus de 5800 électeurs. D'autre part, souvenez-vous, dans les années 80, souvenez-vous, c'est les années tapis. C'est ce qu'on a appelé les années fric, c'est les années vive la crise, c'est les années de la grande désinhibition sur l'entreprise, sur le dynamisme économique, avec des côtés d'ailleurs sans doute utiles, il ne s'agit pas de tout jeter à la poubelle, mais ces années-là ont été des années de déculpabilisation méthodique de la société française dans son rapport à la richesse, à l'argent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la légende que resservent systématiquement les milieux patronaux en particulier, selon laquelle la France a des complexes avec l'argent, les Français ont des origines rurales, catholiques, et des complexes marxistes qui font qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'argent, tout ça est le tableau d'une France qui n'existe plus, qui est morte en très grande partie. Hein. Les enquêtes, vous les avez rappelées dans votre introduction, les enquêtes dont on dispose montrent que les gens, quand on les interroge pour leur demander quelles sont les conditions de la réussite dans la vie, ils disent de plus en plus massivement et sans se cacher derrière leurs petits doigts, gagner beaucoup d'argent. Mmh. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de raisons de penser que la société a accompagné un mouvement de tolérance croissante à l'enrichissement individuel et personnel. Et que ça n'est pas étranger à la sécession. La sécession n'est pas simplement la sécession de ceux qui sont partis, c'est aussi la sécession de ceux qui ont laissé partir et qui ont parfois, même s'ils ne veulent pas s'en souvenir aujourd'hui, regardé les partants comme un idéal d'accomplissement et de réussite. Et je crois que si on ne regarde pas cette contradiction un peu au fond des yeux, on se raconte une histoire pour enfants, on se raconte une histoire trop simple. Bon. Je pense que le refoulé aujourd'hui de notre discours public, c'est d'adopter d'une certaine manière la lecture néo-marxiste et de dire, voilà, les salauds, ils ont fait un casse, ils sont partis avec la caisse. Bon. C'est plus compliqué que ça. C'est évidemment confortable de se raconter les choses comme ça, mais c'est forcément plus compliqué que ça. Et je vous assure que je dis ça sans aucune complaisance à l'égard des 5800 du top.
Alors, donc ce serait une forme de sécession-consentement, en tous les cas, ou de consentement à la
c'est
sécession.
C'est un fonctionnement social qui est derrière ce... C'est pour ça que c'est intéressant. Oui. Sinon, c'est la tête d'épingle. Pourquoi c'est intéressant, ces 5800 personnes? C'est pas parce qu'elles sont heureuses qu'elles font le malheur des autres. C'est intéressant parce que ça raconte un fonctionnement collectif.
Vous allez me corriger, hein, si je dis une bêtise, mais à l'origine de ce processus de baisse de l'impôt, il y a véritablement un projet politique... qui est le projet libéral qu'on va connaître dans les années Thatcher, dans la période Reagan, qu'on connaît aux États-Unis, en particulier dans les années 80, avec toute une série d'élections locales qui sont où on voit élus des équipes qui militent et qui sont élus sur un programme de baisse. Systématique de fiscalité ou d'impôts locaux, et vous évoquez un processus qui s'appelle le trickle-down, qui est donc le ruissellement. Alors, pour bien comprendre, hein, encore une fois, sous votre contrôle, l'idée, c'est, vous voyez, vous représentez une sorte de fontaine de chocolat. Hein, je ne sais pas si vous prenez l'image, d'ailleurs, de la fontaine de chocolat.
Fontaine de jouvence.
Fontaine de jouvence, moi, je suis sur le chat. Alors, vous voyez, ça monte, et puis ça redégouline ou ça redégringole, et ça doit arroser tout le monde. C'est-à-dire que le principe est le suivant, ça ruisselle, puisque c'est le mot exactement qu'on emploie, en libérant la fortune des riches, il doit y avoir un gain global pour l'ensemble de la société. Est-ce que c'est bien ça,
oui, c'est
le
ça.
Prolégomène, ou est-ce que c'est bien ça,
oui,
le fondement du principe? Alors, à l'évidence... Ça a coincé quelque part et ça n'a pas marché. Alors, ça serait intéressant de comprendre, d'ailleurs, si c'était nouveau dans l'histoire économique, ce principe du trickle-down, est-ce que c'est une pure création? Est-ce que c'est une relecture, une réadaptation? Et surtout, pourquoi est-ce que ça a coincé?
Alors, à l'origine, il y a une très vieille idée dans la littérature économique, c'est que les riches sont bons pour la société qu'ils habitent. C'est la fable des abeilles de Mandeville au XVIIIe siècle, si vous voulez. Alors, le contexte de Mandeville est amusant, on peut faire une digression si vous m'y autorisez. Oui. Le contexte de Mandeville est le contexte d'un débat moral sur les péchés dont les riches ou l'aristocratie serait l'illustration, péché de gourmandise, de luxe, de goût du luxe, de dépenses somptuaires. Bon, c'est ça le contexte du débat auquel veut participer Mandeville. Et il dit, imaginez une ruche, une ruche de jansénistes purs, des vrais puritains, qui auraient renoncé à la gourmandise, au luxe, à tout ça, mais cette ruche, économiquement, s'effondrerait sur elle-même. Bon. Trop de vertu tue la prospérité.
Tue le plaisir, surtout.
Et la prospérité, non, son problème, c'est la prospérité économique, c'est le bonheur public. Et inversement, une ruche au cœur de laquelle il y a une petite oligarchie, une reine des abeilles, extrêmement dépensière, extrêmement gourmande, etc. Eh bien, elle consomme, elle crée de l'activité autour d'elle. Non seulement il ne faut pas blâmer les vices des riches, mais ils sont bons pour le bien public. Voilà. Ils sont un facteur de vertu collective et de prospérité collective. C'est ça l'idée de Mandeville. Alors, lisez La Fable des abeilles, c'est marrant, c'est un poème, hein, c'est pas rasoir, bon, c'est pas des livres comme ça, vous voyez, un peu...
c'est pas rasoir du tout, votre livre, je l'ai bien, non, mais je plaisante, bien précisé.
Mais c'est ça le discours de Mandeville. Alors, cette fable des abeilles, elle va être discutée, reprise dans la littérature économique par tout le monde, hein, y compris Keynes, bon, lorsqu'il se demande si, à partir de quand la sous-consommation des riches crée un problème économique grave qui fait qu'il faut les faire désépargner, voire euthanasier le rentier. Bon, ça, c'est vraiment la discussion de la même idée. Donc cette idée, voilà, c'est simple, c'est les riches sont bons pour la ruche, quoi. Ils sont bons pour la société qu'ils habitent. Cette idée, elle a été un peu déformée dans les années 80. Et c'est là qu'arrive la théorie du trickle-down, qui est pas tout à fait... qui va plus loin, si j'ose dire. La théorie du trickle-down, elle dit pas simplement ils sont bons et laissez-les vivre, laissez-les se goberger. Les pauvres, d'une certaine manière, mais ils nous profitent. La théorie du trickle-down a dit non, il faut leur faire des conditions idéales. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait trop d'impôts, il ne faut pas qu'il y ait trop de charges qui pèsent sur leurs entreprises, il faut que leur épargne ne soit pas lessivée par de l'inflation, il faut protéger ce monde-là. C'est un château d'eau de prospérité potentielle et donc il faut renverser le sens de la dette sociale, c'est-à-dire ne pas considérer que ces gens doivent quelque chose à la société. Bien sûr qu'ils lui doivent quelque chose, mais c'est d'abord la société qui leur doit quelque chose, parce qu'ils sont ses bienfaiteurs. Je caricature un peu, vous m'en excuserez, on pourrait parler pendant 3 heures de cette seule question, je fais très très court et très ramassé. Et ça, c'est les années 80. Je cite des interventions publiques de Guy Sorment, qui est tout à fait illustratif de cette ambiance. Bon. Et effectivement, la France, comme d'autres sociétés en Europe, a fait une grande partie de ce chemin pour être plus hospitalière à la fortune, pour moins peser fiscalement sur les hauts revenus, pour moins lester, moins décourager l'esprit d'entreprise par des charges salariales ou patronales trop élevées, etc., etc. Tout cet effort a été fait. Mais les contreparties sociales collectives ne sont pas venues. Finalement, ces années, les années de la sécession, les 3 décennies de la sécession des riches, ne sont pas des années de grande dynamique économique, ne sont pas des années de forte croissance, ne sont pas des années de forte création d'emplois. Curieusement, les 30 glorieuses qui avaient précédé, où là, au contraire, l'histoire des riches n'avait pas été très glorieuse, hein, est revenu assez stationnaire. Je pourrais y revenir tout à l'heure si on parle de l'héritage. Curieusement, ces années-là, qui n'avaient pas été de grandes années pour les riches, avaient été de grandes années pour la croissance, de grandes années pour l'emploi, etc. Bon. Il y a quand même lieu de s'interroger sur l'efficience de cette théorie. Mais au-delà de ça, parce qu'il y aura toujours des gens pour dire ça n'a pas marché parce qu'on n'est pas allé assez loin. Je disais tout à l'heure à quelqu'un à qui j'en parlais, à la fin du communisme, il y avait des communistes pour dire ça n'a pas marché parce qu'on n'est pas allé assez loin. Si on avait fait pire, vous auriez vu ce que vous auriez vu. Bon. Les libéraux, aujourd'hui, peuvent dire à peu près la même chose.
C'est pas une critique purement, formelle, que l'on peut peut-être comme ça balayer d'un simple revers de main, parce que si vous entendez un certain nombre en particulier de chroniques économiques, on va dire grand public, on vous sert assez régulièrement cet argument en considérant qu'il y a encore trop, en particulier en France, de blocage administratif,
etc. Parce que les Français sont des gens très subtils. Hein. On est mal compris dans le reste du monde. Par exemple, on a des taux d'imposition qui font frémir les gens à qui on les annonce. Quand on leur dit le taux marginal de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu est à 41%. Il y a des gens à qui ça fait peur. Mais parce qu'ils ne savent pas que personne dans cette tranche ne paye 41% en réalité. Il y a tellement de dérogations, de niches fiscales. Vous voyez, c'est un jeu compliqué, la fiscalité française. C'est beaucoup plus subtil que la fiscalité britannique, par exemple. Donc, voilà, il faut être dans le... Il faut être dans le truc pour bien comprendre que c'est un peu l'escargot de budget de rat, la France, si vous voulez. C'est dur dehors et mou dedans. Voilà. Donc, ça a l'air comme ça assez impressionnant, mais dedans, ça va. On a un taux d'imposition des très hauts revenus qui est très comparable à ce qu'on trouve dans le reste de l'Europe. L'Europe à laquelle il faut se comparer, c'est-à-dire des grands pays européens, quoi. L'Allemagne, l'Angleterre, ça se joue à 2 points, 3 points, c'est pas la mort. Il faut regarder le taux effectif. Voilà. Par exemple, notre taux d'imposition sur les sociétés fait peur à tout le monde dans les grands pays libéraux. Et puis quand on leur dit, non mais attendez, les sociétés du CAC 40 ne payent que 8% et pas 33%, ils disent, ah bon, ça va. Et personne ne paye, enfin, à part les TPE, personne ne paye 33%. Quoi. Bon, donc, voilà. Il y a l'affiche et la réalité. Bon, mais je reviens au truc. Alors, ce que je dois ajouter à ce que j'ai écrit dans ce livre, parce que les débats apportent toujours quelque chose, j'aurais dû, je pense, ajouter quelques pages pour dire ce que je vais vous dire. Bien sûr qu'une société a besoin d'une classe d'entrepreneurs entreprenants. Bien sûr. La question n'est pas tellement celle-là. La question est de savoir s'il faut leur allouer une telle part de richesse pour qu'ils aient envie d'entreprendre et qu'ils soient effectivement entreprenants. Je ne pense pas. C'est ce qui est choquant, frappant, discutable en tout cas, dans les années, dans les décennies qui viennent de s'écouler, c'est la disproportion entre les moyens qu'on a alloués à cette élite, on va dire, ou les moyens qu'on a laissé prendre à cette élite, bon, et puis l'effet qui était recherché. Voilà, je pense que là, on...
Il n'y a pas de retour sur investissement. Quoi.
Là, on est dans le registre de la croyance. On n'est pas dans le registre, si vous voulez, d'une politique intelligente.
Alors, dans votre livre, vous évoquez la fin des rentiers et, j'allais dire, le retour des rentiers ou une forme de redémarrage de la rente. Je voudrais citer un auteur que vous citez, d'ailleurs, pour lequel j'ai une profonde affection, qui est un des plus grands historiens français, qui s'appelle Marc Bloch, et qui, dans L'étrange défaite, c'est son dernier ouvrage, on a retrouvé le manuscrit de L'étrange défaite après qu'il ait été arrêté et exécuté par la ministre, il écrit ceci: « Les révolutions économiques qu'on attribuait à la dernière catastrophe mondiale s'appellent la quiète stabilité des fortunes. Jadis, ressource presque unique de beaucoup de familles, ultime espoir de tant d'autres, qui en étaient encore aux premières pentes du succès, la rente fondait entre des mains étonnées. » Ça, c'est à l'issue, on va dire, de la Première Guerre mondiale, et finalement, sous les coups répétés des destructions des deux guerres. Hein, Bloch a bien connu la première et il est un témoin privilégié du début de la deuxième, de la déconcentration de la recherche et puis aussi de l'impôt progressif. La rente, pendant tout le XXe siècle, tend à fondre. Et surprise des surprises, ce sont entre autres les travaux de Thomas Piketty que vous reprenez et qui l'explique fort bien, on retrouve maintenant une inversion des courbes, et entre 83 et 2000, vous dites la part des 1% les plus riches dans le revenu national global est remontée de 7 à 9%, et fondamentalement, il y a un retour des rentiers dans notre société. On était tombé à 7% alors qu'on était à 19% avant 1914.
Oui, alors on mélange deux choses. Oui. C'est un peu compliqué, je vous demande d'être patient et attentif. On va faire pédagogique. Les ressources dont vous disposez, vous les avez acquises soit par le travail, soit par l'héritage, soit par la chance, pour ceux qui auraient trouvé un trésor ou gratté un billet de loterie chanceux. Quelle est la part relative du travail et la part du patrimoine dans vos ressources? Bon, c'est une question importante pour savoir un peu à qui on a affaire, quoi. Quand vous montez dans la distribution des revenus, plus vous montez, plus vous avez affaire à des gens dont les revenus sont d'origine patrimoniale. Donc une très grande partie des revenus sont d'origine patrimoniale. Dans la très grande majorité des cas, les Français tirent entre 96 et 98% de leurs revenus, de leur activité. Tout en haut de la distribution, là, dans les 1% ou les 0,01%, le revenu d'activité, le salaire et ses adjoints, j'allais dire, les bonus, stock options, etc., c'est 50% du revenu total. Le reste, c'est les revenus du patrimoine. Donc ça peut être des loyers, ça peut être des plus-values sur des cessions, etc. Et dans cette partie du patrimoine, il y a une partie qui vient par l'héritage. J'en viens aux chiffres que vous citiez. Alors, Thomas Piketty, c'est pas ses travaux les plus connus. Je vous invite, pour ceux qui lisent l'anglais et qui ont pas peur d'un peu de technique économétrique, à aller voir sur son site le long article disponible sur l'héritage. Il a essayé d'observer sur plus de 200 ans la part du revenu national issue de l'héritage, le reste étant issu de l'activité. Le revenu national, c'est le PIB moins un certain nombre d'agrégats, mais je laisse ça de côté. Gardons par convention que c'est 80% du PIB, le revenu national. Tout au long du 19e siècle, dit-il, la part de l'héritage, c'est-à-dire des richesses issues du passé dans le revenu national, c'est entre 20 et 25%. Le 19e siècle est un siècle de croissance assez lente. Croissance lente, ça signifie aussi qu'il y a peu de redistribution des cartes dans la société, il y a peu d'ascension sociale, de gens qui, par leur travail, arrivent à changer de statut ou d'étage. Et puis il suit sa courbe et il arrive au seuil du XXe siècle. Et là, on va tomber en 40 ans de 25% à 5%. De 1914 à 1950, il y a cette chute extraordinaire, hein, vraiment très raide, de la part de l'héritage dans le revenu national. C'est l'effet des guerres, un moment de destruction formidable de capital, bien sûr. C'est aussi l'effet de la grande crise des années 30. C'est l'effet de l'hyperinflation d'après-guerre aussi. Bon, c'est l'effet d'épisodes historiques brutaux qui ont eu un impact massif sur les patrimoines. 5% en 1950, c'est extrêmement bas. Ça veut dire que quelqu'un qui hérite ne peut pas en vivre, ou très difficilement. Il faut vraiment qu'il hérite de beaucoup. Hein. Ensuite, la courbe, elle va remonter très lentement. Monte 5-7% au seuil des années 70. On est vraiment dans le fond du U. Hein. Et évidemment, comme c'est un U, ça va remonter, sinon ça ne serait pas un U. Donc dans les années 80-90 et particulièrement 2000, la courbe se redresse. La part de l'héritage dans le revenu national remonte. Et remonte, on est aujourd'hui probablement entre 10 et 15%. Et d'après les extrapolations de Piketty, on va vers les 20-25% à l'horizon de la décennie ou des deux décennies qui viennent. C'est-à-dire qu'on est à peu près, là, au moment où nous parlons, dans la situation de la société française en 1920, de ce point de vue-là, sous ce critère-là, pas sous d'autres. Mais celui-là, il n'est quand même pas neutre. Et si on écoute Thomas Piketty, on sera dans 10 ou 20 ans dans la situation de la fin du 19e siècle. Alors, comment on s'explique ça? C'est quand même très intéressant. Parce qu'on vit dans des sociétés, des démocraties qui se prétendent méritocratiques, qui disent aux gens, si vous travaillez, que vous faites des efforts, vous serez récompensés, bon, à proportion de vos efforts. En tout cas, c'est cette justice-là qu'on recherche. Et de plus en plus, on voit revenir l'inertie de l'hérédité patrimoniale, économique, jusqu'à la plus bêtement matérielle, j'allais dire. Et ce qui s'est passé, c'est assez intéressant, c'est que il y a des périodes de forte croissance et des périodes de faible croissance. Dans les périodes de forte croissance, la valeur du travail progresse plus vite que la valeur du patrimoine. Dans les périodes de faible croissance, au contraire, le patrimoine a un avantage de valorisation souvent sur le travail.
Mais c'est en 1983-84 qu'en France, la courbe du revenu du capital dépasse et qu'il est, le revenu du capital devient supérieur au revenu du travail.
C'est pas tout à fait ça, mais je finis et puis on revient à cette question. Dans les années 50-60, dans les 30 glorieuses, période de très forte croissance, on a 5,5% de croissance en moyenne sur plus de 15 ans. C'est fantastique, c'est un épisode économique assez inédit. Bon. Très vite, les enfants sont plus riches que leurs parents. Pas simplement qu'ils sont venus à la ville, etc., et qu'ils ont plus de diplômes. C'est que le travail leur rapporte beaucoup. Et que les parents qui sont issus d'une autre époque économique n'ont pas tout à fait accumulé les mêmes ressources. Donc on vit dans une société où les destins sont beaucoup plus brassés, où les changements de position sont beaucoup plus nombreux, où la mobilité sociale qui va avec cette forte croissance est très importante, et où l'héritage pèse moins. Le truc se retourne au moment de l'entrée dans les 30 dites piteuses, avec l'affaiblissement de la croissance de l'activité, avec des politiques de désinflation qui protègent beaucoup les actifs patrimoniaux. Et là, à nouveau, le rentier peut retrouver les conditions d'une survie assez facile. On est dans cette époque-là. Et ce qui menace à travers tous ces raisonnements un peu comme ça techniques, c'est quand même, la défaite de la méritocratie. C'est ça qui menace. C'est-à-dire, ce qui nous menace, c'est une situation dans laquelle on ne pourra plus regarder les jeunes dans les yeux en leur disant « Si tu travailles, si tu fais des efforts, l'avenir t'appartient. » J'y vais fort, je m'en excuse, il faudrait prendre beaucoup plus de précautions que je n'en prends aujourd'hui, mais je voudrais en même temps aller à l'essentiel. Alors, l'affaire capital-travail, si vous voulez évoquer le partage de la valeur ajoutée, c'est pas tout à fait ce que vous dites. Je sais bien que dans une grande partie de la gauche, on en fait des tonnes sur cette question, mais on dit souvent aussi des bêtises. Bon, voilà, c'est ma sensibilité, je le reconnais, donc je le dis d'autant plus volontiers. Mais le partage capital-travail, partage de la valeur ajoutée entre les profits et le travail, sur très longue période, il est étonnamment stable. C'est 2/3, 1/3. Aucune théorie n'a réussi à comprendre pourquoi. Mais on observe, alors il y a des variations, la clé de répartition n'est pas toujours la même. Là, on est plutôt dans une période où la part profit est assez haute, mais on se compare souvent à une période où la part travail était très haute, qui était les années 70. Bon. Donc, au total, l'un dans l'autre, 2/3, 1/3, c'est une règle assez historique du partage capital-travail. Mais en fait, ce que je viens de dire n'a aucun intérêt. Le problème, il est ailleurs. Il n'est pas dans le partage entre les profits et le travail, il est dans ce qui s'est passé dans le travail et dans ce qui s'est passé dans les profits. Parce que dans le même temps où la clé de répartition donc se rééquilibrait au profit des profits dans les années 80, c'est l'époque que vous rappelez, ce qui se passait dans les salaires, enfin dans la poche travail, c'était une explosion des inégalités salariales au profit d'une petite élite, et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, les 15 000, etc., notamment à la fin des années 90. Et ce qui se passait dans la poche profit, c'était une explosion des dividendes. Les profits, vous savez, on peut en faire plein de choses. On peut en faire de l'investissement, ce qui est souhaitable, on peut en faire de l'épargne, on peut aussi le verser à ses actionnaires, les dividendes. Et la part des dividendes a augmenté, a doublé, dans ces années-là. Et puis, il se trouve, et c'est pour ça que cette question du partage de la valeur ajoutée, elle raconte pas tout. Il se trouve qu'il y a des gens qui jouent des deux côtés, qui jouent sur les deux tableaux. Ce qu'on appelle le capitalisme patrimonial, le capitalisme qui s'organise autour de la défense de l'actionnaire, pour faire court. On peut y revenir si vous voulez, mais c'est un capitalisme qui a essayé d'intéresser les dirigeants d'entreprise à la valeur de bourse de l'entreprise, c'est-à-dire d'intéresser les entreprises aux intérêts des actionnaires. En disant, tu vois, si tu diriges bien, la valeur va monter, on va la partager avec toi. Donc tu as intérêt à jouer pour notre... Bon, Là encore, je fais court et rapide, mais c'est ça le capitalisme patrimonial. Donc du coup, vous avez des salariés, des cadres dirigeants d'entreprise qui touchent du salaire, qui sont ceux qui ont tiré le plus grand profit à l'explosion des inégalités salariales, mais qui touchent aussi une partie des profits sous forme de stock options bien revendus au bon moment, de bonus, etc., ou de paiement en action parfois. Donc ils sont sur les deux fronts. C'est les working rich dont parlait Gaucho, si vous voulez. C'est pas, ils sont pas du côté du profit ou du capital ou du côté du travail. Ils sont des deux côtés. Donc vous avez une catégorie de gens, et chez les ultra riches d'aujourd'hui, il y en a quand même un certain nombre qui jouent sur les deux tableaux. Donc ce partage.
Alors, avant de donner la parole à la salle, je voulais évoquer avec vous un autre auteur, même on va dire trois auteurs, Tervieux d'un côté, Tervieux, et puis Gabet et Landier, que vous citez page 79-80 dans votre livre. Et en lisant ce passage, on se pose la question, mais finalement, à quoi peuvent bien servir les riches, hein, fondamentalement ? Parce que vous dites. L'étude de Tervieux, aux États-Unis, pour les 1000 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis, en 2004, la valeur propre engendrée par les dirigeants représente entre 0,16 et 0,20% de la valeur de marché des entreprises considérées. Et puis, Gabet et Landier, c'est encore plus spectaculaire. Si le dirigeant de la première des 250 plus grandes entreprises devait remplacer le dirigeant de la 250e. La valeur de marché de la 250e augmenterait, disent Gabet et Landier, de 0,016%. Mais la différence de rémunération de ces deux dirigeants allait de 500%. Donc, on se dit qu'il faut mieux être, non pas premier dans son village que deuxième à Rome, mais faut mieux être, en tous les cas, identifié comme le premier des 250e, même si finalement, on apporte peu. Alors, d'abord, comment est-ce que ça peut véritablement se mesurer ?
Ça, je ne peux pas.
On ne va pas rentrer là-dedans.
On va passer deux jours ensemble.
Mais ça veut dire que ces études, ces mesures, bon, si vous les reprenez, c'est que vous y adhérez. Enfin, je pense que vous les validez complètement.
Non.
Et non ? Ah bon ? Vous ne les validez pas ?
Non, non, je vais dire pourquoi.
En tous les cas, je me disais, mais finalement, En lisant ça, on connaissait la phrase de Disraeli, il y a les mensonges, les fiefs mensonges et les statistiques. Alors finalement, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas dans une forme d'intoxication ?
Je valide, j'utilise ces chiffres, donc je ne suis pas contre. Mais je pense qu'il raconte, une réalité qui n'existe pas. Il raconte une fiction. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui est intéressant.
Une fable pour qu'on comprenne.
Non, mais même pas. Il raconte une science, une extra-lucidité du marché que le marché n'a pas.
D'accord. Ouais.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, le truc de Gabex et Landier est assez marrant parce que, au terme d'un modèle statistique très très sophistiqué sur lequel je passe, et prenant pour indicateur de la performance des dirigeants l'évolution de la valeur de bourse de l'entreprise, enfin de la part de la valeur de bourse qui peut leur être imputée, ils arrivent à cette conclusion magique en disant, voyez, parce que vous, ça vous fait rire, parce que 0,016%, vous dites, c'est vraiment infime. Mais pour eux, c'est un triomphe, ce 0,016%. Grâce à ça, ils arrivent à dire, voyez, le marché arrive à bien classer les talents.
D'accord.
Voilà. Bon, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus dans le livre, parce que ça n'avait pas l'air de vous surprendre. Mais pour eux, c'est une découverte, c'est un pur diamant, cette affaire. Bon, alors, ils disent... on prend les 250 plus grosses capitalisations boursières américaines. On fait l'hypothèse que celui qui dirige la plus grosse capitalisation est le meilleur. Dans un monde de concurrence parfaite et non faussée, donc déjà là vous pouvez refermer le truc et faire autre chose, mais si vous êtes amateur de fiction, vous continuez. Donc dans un monde de concurrence parfaite et non faussée, le marché fait le tri entre tous les talents et arrive à classer 250 dirigeants dans le bon ordre, en fonction, parce qu'évidemment, plus l'entreprise a une valeur boursière élevée, plus votre revenu sera élevé. Donc le marché est intelligent, c'est ça qu'il faut démontrer quand même. Donc ils le démontrent et ils arrivent à cette conclusion donc inespérée. Si vous prenez le patron de la plus grosse capitalisation boursière que vous le mettez à la tête de la 250e, la 250e va connaître une augmentation de sa valeur de marché de 0,016%. Alors, évidemment, ça fait rire, mais c'est énorme en même temps. Parce que 0,016% de la valeur de marché d'une boîte comme ça, c'est énormément d'argent. Donc, le type ou la femme à qui on impute cette performance vienne ensuite dire « je voudrais aller même 3% de ces 0,016%, je vous assure qu'on vit très très bien. Hein. On parle de sommes monétaires spectaculaires. La question c'est, est-ce que le marché peut repérer des différences de talent de 0,016%? Est-ce que vous, par exemple, dans la vie, vous arrivez, je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle, par exemple, à faire une différence de 0,016% entre deux copies de français, de mathématiques dans vos classes? Bon. C'est pas facile, ça suppose quand même une horloge de qualité atomique. Hein, bon. Alors, les économistes disent c'est l'économie de superstar. Voilà. C'est-à-dire, une petite différence de performance crée une énorme différence de rémunération. Le modèle, c'est la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques.
Oui, exactement.
Donc, vous avez des gars qui courent comme des dératés. À l'arrivée, il y a 2 centièmes qui séparent le premier du deuxième. Mais là, il y a une horloge atomique et voilà, il y a des outils pour dire effectivement, il y a bien 2 centièmes de différence entre ces deux personnes. Et la marche sur le podium est infiniment plus élevée. C'est la différence qu'il y a entre l'or et l'argent, entre la victoire et la déception, entre la notoriété et l'oubli. Donc, la rémunération de cette petite différence de performance, elle est gigantesque, la différence de rémunération. Ça, c'est l'économie de superstar. Le problème, c'est que je ne connais aucune entreprise, ni aucun individu capable de discerner d'aussi infimes différences de talent et de performance. Donc, c'est là qu'on entre dans le monde de la fiction totale. Moi, je sais pas faire ça, si vous voulez. Je ne sais pas distinguer d'aussi faibles différences de performance. Donc, c'est là que le modèle achoppe. Bon. Parce que, après, quand vous réfléchissez concrètement, vous connaissez tous des entreprises, peut-être il y a des gens qui ont des responsabilités d'encadrement dans des entreprises. À qui doit-on le succès de l'iPhone ? À qui ? À celui qui l'a conçu ? À celui qui a décidé d'investir dessus ? À ceux qui ont contrôlé la qualité du produit, à ceux qui ont assuré le marketing, à ceux qui ont fait les campagnes de promotion, à celui qui s'est dit c'est le bon moment pour le lancer, à celui qui a développé la version 2 très rapidement. Vous faites comment la division des mérites dans tout ça ? Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les rapports de coopération, la division du travail rendent très complexe, pas complètement impossible. Les mérites des uns et des autres ne sont pas tous équivalents, naturellement. Mais il est très difficile, concrètement, de déterminer la part relative du mérite de chacun le long de cette chaîne. En tout cas, on le fait pourtant sans cesse dans les entreprises, puisqu'il y a des salaires plus élevés que d'autres, etc. Hein? Et on le fait souvent très mal, mais il faut bien le faire en même temps. Ça pourrait être décourageant, finalement, de ne pas récompenser le mérite. Bon. Mais ce dont je suis absolument certain, c'est que rien ne justifie les écarts qu'on voit aujourd'hui. Que Steve Jobs ait du génie ne fait pas de doute, que son génie vaille aussi cher, me laisse assez interrogatif.
Je termine en disant que le livre a des passages qui sont tout à fait passionnants sur les artistes, en particulier sur le comportement de certains artistes au regard, on va dire, de ce qu'ils gagnent et de ce qui pourrait être considéré comme le rapport à la communauté nationale. Johnny Hallyday, pour ne pas le citer, artiste ô combien populaire par ailleurs, mais également sur les footballeurs, je retiendrai, parce que ça parlera au Bordelais, hein, page 100. En 71, le célèbre défenseur central de l'équipe de France de football, Marius Trésor, vous dites pas que ça a été quand même un des piliers des Girondins de Bordeaux où il travaille toujours.
Si j'avais su que je viendrais ici, j'aurais
touché un salaire équivalent à 2500 euros d'aujourd'hui, prime de match non comprise. Presque 40 ans plus tard, en 2009, Thierry Henry gagnait 17 millions d'euros par an. Là encore, difficile de dire si Thierry Henry était bel et bien plusieurs milliers de fois plus performant que son illustre devancier, mais c'est pour le moins douteux. En réalité, dans le football comme dans l'entreprise, c'est surtout le système économique tout autour qui a changé. Donc il y a des passages qui sont tout à fait passionnants, en particulier et cette comparaison par rapport à ce qu'on appelle l'économie de superstars et à la course du 100 mètres, et particulièrement parlante. Merci beaucoup Thierry Pêche, on, je crois qu'on peut vous applaudir.